Hornung, le sosie de l'assassin. Ce fut dans l'express d'Écosse de minuit, pendant le long trajet sans arrêt de Londres à Crewe, que je m'aperçus pour la première fois de mon effarante ressemblance avec Rowland Chandler. La froide horreur que m'inspira cette pénible constatation m'a laissé une impression plus profonde que la tragique aventure dont elle fut suivie, précisément sans doute parce que j'étais de sang-froid, qu'il me restait encore du temps pour réfléchir et que je n'avais, selon toute vraisemblance, aucune raison d'éprouver de sérieuses appréhensions à ce sujet. Néanmoins, je confesse que, sur le moment, je ne fus pas sans éprouver quelque gêne. Bien plus que par son crime, d'ailleurs banal, ce jeune Chandler avait répandu l'épouvante dans Londres par la façon extraordinaire dont il avait réussi à disparaître aussitôt son forfait accompli. Les journaux du soir triomphaient, une affaire aussi sensationnelle était pour eux une aubaine inattendue. Aussi le nom du jeune criminel s'étalait-il sur toutes les manchettes, et des colonnes entières étaient-elles consacrées au récit du crime, à l'enquête, au rapport des témoins et à la fuite inexplicable du bandit. Ma curiosité, éveillée par ces titres prometteurs, je commençais déjà à m'absorber dans la lecture du journal que j'avais acheté avant de partir, quand je fus soudain frappé de voir mon portrait au milieu de la première page. Mes yeux coururent tout de suite au nom qui était au-dessous. Était-ce donc la gloire qui m'arrêtait enfin? Hélas, non. C'était l'opprobre, au contraire. Et le nom n'était pas le mien. C'était celui de Rowland Chandler. Or, j'apercevais sur cette photographie chacun de mes traits reproduit d'une manière aussi frappante que quand je me regarde dans la glace. Le premier moment de stupéfaction passé, presque instinctivement, j'élevai mon journal à la hauteur de ma figure afin de la dissimuler au regard, car je n'étais pas seul dans mon compartiment. En effet, un voyageur assis dans le coin à côté de moi était lui aussi en train de lire un journal du soir. Nous n'étions que nous deux dans ce compartiment de troisième classe. Et nous devrions y être seuls, seuls en tête à tête, pendant trois interminables heures. Je regardais les jambes de mon compagnon, ses pieds chaussés de grosses bottines. Autant que j'en pouvais juger, par le peu que je voyais de lui, ce devait être un homme vigoureux. Qu'adviendrait-il s'il s'apercevait de la ressemblance et me sautait à la gorge en me prenant pour l'assassin? Sans doute je pourrais le forcer à tirer la sonnette d'alarme et une fois le train arrêté, faire voir mes papiers. Mais il était bien certain que ce portrait me condamnerait aux yeux de tout le monde et que je devrais continuer le voyage jusqu'à Crewe, prisonnier dans le fourgon. Cette perspective me faisait trembler, aussi fort que si j'avais été moi-même le coupable. J'essayais de me remémorer le peu d'observations que j'avais faites auparavant au sujet de mon compagnon de voyage. Il était monté dans le train, après moi, m'avait fait l'impression d'un homme âgé, resté très robuste et d'allure très vive, portant une longue barbe qui lui descendait jusqu'à la poitrine, tel un missionnaire. Il m'avait donné une preuve de sa force en juchant au-dessus de sa tête le gros sac qui s'y trouvait maintenant et qui devait être excessivement lourd à en juger par la façon dont il pesait sur les mailles d'un filet. Les hommes qui ont passé la majeure partie de leur existence dans les colonies sont généralement des gaillards bien trempés et sur leur visage se marque parfois avant l'âge. Ils s'en sont pas moins vigoureux pour cela. Mon missionnaire, car dès le début je l'avais toujours catalogué comme tel, ne faisait point d'exception à la règle. Et j'étais convaincu qu'il pouvait être un adversaire redoutable. J'en étais là de mes réflexions lorsque mon compagnon abaissa son journal et m'adressa la parole. Oh, quelle épouvantable affaire! Ma première impulsion fut de ne pas lui répondre. Puis, aussitôt après, je crus préférable de lui dire qu'il m'avait réveillé. Mais, en définitive, je ne finis l'un ni l'autre. Quelle idée saugrenue d'imaginer qu'un innocent pût être en proie aux mêmes affaires qu'un coupable! Non, mieux valait prendre résolument le taureau par les cornes et répondre sans crainte, du moment que je n'avais pas lieu d'en avoir. Je laissai tomber mon journal sur mes genoux et regardai mon interlocuteur bien en face. Oui, épouvantable, en effet, répondis-je. Nous voulons parler de la même affaire, sans doute, reprit-il en souriant. Mais ses yeux clairs étaient durs et il me sembla qu'il me fouillait déjà du regard d'une façon désagréable. Oui, c'est à l'assassinat de Waltman Green que je pensais, répliquai-je en affectant la brusquerie afin d'aller au-devant de mes soupçons. Eh bien, moi aussi, un charmant jeune homme que ce Chandler. Tout à fait charmant, répétai-je d'une voix blanche. Mais c'est son âge qui me frappe le plus, poursuivit mon missionnaire. Ses yeux au regard métallique fixés sur les miens. D'abord, je trouve surprenant que si jeune, il soit déjà marié, et puis. On se marie très jeune dans ce monde-là, interrompis-je en reprenant quelque assurance, car cela venait de me faire penser à un détail auquel je n'avais point encore songé, à savoir que j'avais 28 ans, tout en ne les paraissant pas, alors que l'assassin en avait seulement 22. Ah, vraiment? riposte mon vénérable compagnon en fronçant légèrement les sourcils, mais en laissant voir pourtant, dans un immuable sourire, ses dents très blanches entre sa moustache et sa barbe sombre. Et dans le vôtre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous n'êtes pas marié, vous? Il se trouvait que j'étais marié et que je quittais justement pour la première fois ma femme et mon enfant pour aller voir un de mes vieux camarades de collège qui habitait l'Écosse. J'avouais donc que j'étais marié, comme je le suis en effet. Seulement, ajoutai-je, moi, j'ai près de 30 ans. On ne s'en douterait pas, me répliqua-t-il, son impitoyable regard toujours rivé sur le mien. Et où est-elle votre femme? L'ai laissée à Londres. Vivante? Me demanda-t-il brusquement. Il devenait évident qu'il s'était aperçu de la ressemblance dès le début de notre rencontre. Mais elle était encore à 10 heures, répliquai-je. Et où l'avez-vous quittée? Pas du côté de Warren Green, j'espère. Et en disant cela, il ricanait avec une jovialité abjecte. Cependant, je me contins encore, car je voyais ses fortes mains prêtes à me prendre à la gorge. Non, pas tout à fait, à Chelsea, répondis-je, bien décidé à éviter à tout prix une dispute. Les deux endroits ne sont pas éloignés l'un de l'autre, s'écria-t-il. Et pour la première fois, son regard s'abaissa un instant. Et alors, nous avons lu le récit du crime dans la même feuille de chou? Ben, il paraît. Ce Chandler a l'air joli garçon, vous ne trouvez pas? Oh, on ne peut guère juger d'une physionomie d'après un portrait plus ou moins fidèlement reproduit par un journal, répartis-je. C'est vrai, reconnut-il en élevant le journal entre nous. D'après ça, on ne peut pas voir si c'est un monsieur comme vous ou si. Il resta la bouche ouverte, s'arrêtant brusquement au milieu de la phrase. Ou si c'est d'autre chose, acheva-t-il enfin, atténuant sa pensée par une expression vague. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de doute sous ce rapport-là, répondis-je. Ses yeux se relevèrent aussitôt vers moi. Ne vous y trompez pas, le gaillard est un malin. Oh, je vous accorde, lui dis-je, que ce doit être un individu doué d'une sorte d'intelligence. Il a mis dans l'accomplissement de son crime infâme une adresse digne d'un meilleur emploi. « Mais êtes-vous bien sûr que ce soit lui le coupable ?» me demanda-t-il entre ses dents, d'une voix presque menaçante. Ben, « Sa culpabilité n'est-elle pas évidente ?»« En tout cas, personne ne l'a vu, et en Angleterre, un homme est innocent tant qu'on n'a pas prouvé qu'il est coupable. »« Ne l'oubliez pas. »« Je tâcherai de ne pas, pour mon côté, de ne pas l'oublier non plus, » ajouta-t-il. Et il me sembla qu'il faisait un effort de volonté pour maîtriser son émotion et reconquérir du même coup sa sinistre gaieté un instant évanouie. « Allons, acheva-t-il, vous conviendrez que j'ai été bien gentil avec vous. Mais que voulez-vous dire ? Ce que je veux dire ? Mais qu'à ma place, il y en a beaucoup qui auraient tiré la sonnette d'alarme et fait arrêter le train. Et vous savez bien pourquoi ? Parce que je ressemble à ce misérable Chandler ? » Ses yeux lancèrent un éclair, mais il fit de la tête un signe d'assentiment. « J'ai échappé, vous le savez. Il est peut-être en route pour l'Écosse à l'heure actuelle. Et il y a quelqu'un dans ce compartiment où nous sommes qui lui ressemble d'une façon étrange. Jamais encore nous ne nous étions dévisagés avec une telle fixité et une telle acuité de regard. » « Vous croyez sans doute que je vous ai pris pour lui ?» poursuivit-il. « Mais j'en suis sûr. Même il y a beaucoup de temps que je m'en suis aperçu. Si l'on s'en rapporte à ce journal, je conviens que la ressemblance est frappante. « Vous trouvez ?» me dit-il. « Eh bien, je vais vous en montrer une plus frappante encore. » Il éleva son journal devant sa figure. Et je crus d'abord qu'il en parcourait de nouveau les pages, mais je m'aperçus bientôt que ses yeux étaient étincelants et qu'il continuait à me regarder par-dessus le papier. Pendant quelques instants, ses gestes firent s'agiter la grande feuille étalée. Enfin, elle tomba à terre entre nous deux. Et ce fut comme si un miroir avait brusquement surgi à sa place. J'étais assis en face de ma vivante image. J'avais devant moi mon double, un autre moi-même. Mon compagnon de route, sur le genou duquel reposait une énorme fausse barbe et un revolver nickelé, était mon parfait sosie. Seuls ses yeux différaient des miens. « Vous voyez que vous vous êtes trompé jusqu'au cou !» fit-il avec un rire sinistre. Mais je vais penser un seul instant que vous étiez Rowland Chandler pour la bonne raison que Rowland Chandler, c'est moi. » Cela ne souffrait aucun doute. Un instant, j'avais essayé d'imaginer qu'il pouvait y avoir une triple ressemblance. J'avais supposé que mon compagnon était un détective lancé à mes trousses. Est-ce qu'un assassin traqué par la police voyagerait volontairement avec son sosie ? Était-il admissible qu'il révélât ainsi de gaieté de cœur sa propre identité ? Malgré cela, l'obscurité de ma supposition m'apparut tout de suite. En un clin d'œil, je détaillai tous ses traits. C'était avec moi une ressemblance extraordinaire, mais en laid, en vulgaire, en bestial. Il avait la mâchoire accentuée et saillante. Ses lèvres charnues se retroussaient sous sa moustache, pas plus grosse qu'une paire de sourcils, et qui était l'exacte reproduction de la mienne. Ses yeux, petits et étincelants, très rapprochés l'un de l'autre. Son front était fuyant, et la hauteur du crâne contrastait avec son étroitesse. En un mot, un faciès qui laissait supposer tous les vices. En dépit de tout ce qu'elle révélait de mauvais instincts, cette physionomie conservait une expression ouverte, avenante et singulièrement gamine. « Je suis à votre recherche depuis que l'événement est arrivé, » me dit le jeune assassin. Quelle que fût mon horreur pour le misérable, je ne puis cacher que ma curiosité était violemment piquée au vif. C'était la première fois de ma vie que je voyais un assassin en chair et en os. L'étrangeté de la situation l'emportait sur la répugnance que j'aurais dû éprouver vis-à-vis de ce criminel. Avez-vous jamais entendu parler d'une revue appelée Les Hautes Idées ? Me demanda-t-il. Hélas, oui, j'en avais entendu parler. Mon portrait s'était étalé au milieu de ses colonnes, encadré d'un texte si abominablement flagorneur que j'en rougissais encore, même en la compagnie de celui avec qui j'étais en ce moment. Oui, quand je pensais au rédacteur des Hautes Idées qui était venu me demander une interview, je me sentais moi aussi des instincts meurtriers. Je dus changer de couleur en acquiesçant. Eh bien, c'est cela qui m'a mis sur votre piste, continua Chandler. Mes amis m'ont demandé si c'était moi. Je l'ai laissé croire à une jeune fille à qui je faisais la cour, en lui racontant que c'était sous votre nom que j'écrivais. Ses yeux eurent une lueur mauvaise. Vous ne devriez jamais permettre à ces maudits journalistes de divulguer votre adresse. Et depuis que j'ai eu des ennuis, je n'ai pour ainsi dire pas cessé de monter la garde devant la maison que vous habitez. Et si je n'avais pas appris que vous partiez ce soir pour l'Écosse, c'est chez vous que nous serions en train de causer. Mais ici, c'est plus commode. Une expression de malveillante satisfaction illumina un instant sa physionomie crapuleuse, et alors je commençais enfin à avoir peur. Mais en quoi puis-je vous être utile? Ha ha, vous allez voir! Vous ne songez pas à m'assassiner, moi aussi. Mais qui parle d'assassinat? Répliqua-t-il avec une audace inouïe. Où avez-vous été prendre que j'ai déjà assassiné quelqu'un? Répétez-le un peu pour voir. C'est alors qu'il pourrait vous arriver un malheur. Entendez-vous? Répétez-le. Et vous serez le premier qui... Ce n'est pas moi qui ai fait le coup. Il peut se faire que je ne sois pas blanc comme neige, mais jamais. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de témoins. Oh, je sais, ça ne les empêcherait pas de m'arrêter, de me faire pendre comme ils m'ont arrêté et fait pendre bien d'autres braves gens tels que moi. Il faut bien qu'ils pendent quelqu'un, c'est leur rôle. Il était devenu blême de colère et s'était dressé en brandissant son revolver au-dessus de ma tête. Mais soudain, un long frisson le parcourut de la tête aux pieds et son front brilla sous la lumière de la lampe. « Non, ils n'auront pas ma peau !» hurla-t-il. « Ils ont affaire à plus malin qu'eux, cette fois, et je les mets au défi de me prendre !» Il recula en brandissant toujours son revolver jusqu'à l'autre bout du compartiment, et se rassit en murmurant des paroles inintelligibles sur la banquette où il se tenait auparavant. Sa main tremblait de rage. « Bien à présent, me dit-il, vous allez faire ce que je vous commanderai. Je vous préviens, une fois pour toutes, que si vous désobéissez, vous êtes un homme mort. » Et après ce préambule suffisamment expressif, il me jeta cet ordre imprévu, extraordinaire, abracadabran. Déshabillez-vous. J'étais prévenu, il ne s'agissait pas de discuter, mais d'obéir. La volonté complètement annihilée, je me mis en devoir d'exécuter l'ordre qui m'était donné, et quelle que fût ma stupeur, je commençai à comprendre. Donnez-moi vos vêtements, et ayez soin de ne rien retirer des poches, gronda-t-il. Combien d'argent avez-vous? Mon 3-4 livres. Eh bien, laissez-les où elles sont. Il faudra que je m'en contente. Moi aussi, je vais laisser mon argent où il est. Il faudra que vous vous en contentiez, ajouta-t-il avec un rire farouche. Vous possédez autant de shillings que moi de livres? Lui demandai-je, un bras hors de la manche de mon veston. « À peu près autant de pence, » me rétorqua Chandler. Et en un clin d'œil, il se dépouilla de son veston et de son gilet. « Le pantalon ?» demandai-je. « Mais la chemise et le gilet de flanelle aussi, » ordonna-t-il. « Tout, allez, absolument tout, que je vous vois nu comme un ver dans le coin où vous êtes, et toutes vos fruches sur cette banquette à côté de moi. » Il retira quelques-uns de ses vêtements pendant que j'enlevais successivement tous les miens, mais lentement, en prenant tout son temps, sans me quitter de l'œil une seconde, et sans cesser de braquer sur moi son revolver. Quand ce fut fini, le jeune gredin, toujours attentif à mes moindres mouvements, endossa tout à son aise mes habits. Alors il m'ordonna, d'un ton bref, sans me fournir aucune explication, de revêtir les siens. J'avais tout bien pesé dans mon esprit. C'eût été pure folie que de vouloir résister à un homme armé qui avait déjà un assassinat à son actif. J'obéis donc. Et je constatai, en tirant la montre que je retrouvais dans le gousset de son gilet, qu'il était 2h05. « Nous devons, dis-je, arriver à Clew à 2h51. »« Oui, nous devons y arriver, » murmura-t-il. « Évidemment, nous devons y arriver. » Vous avez naturellement l'intention de descendre du train, et vous vous dites qu'on me prendra pour vous. L'assassin me fit oui d'un signe de tête, mais avec une si macabre ironie que je m'interrompis brusquement. Et naturellement aussi, repris-je au bout d'un instant, avec moins d'assurance, on n'acceptera pas immédiatement mes explications. Cependant, on sera bien forcé de les accepter demain, lorsqu'on me ramènera à Londres. De sorte que tout ce que vous y aurez gagné, ce sera une courte avance d'une nuit sur la police qui vous poursuit. Chandler me considéra longuement. Nous étions encore chacun à l'endroit où nous avions changé de vêtements, chacun à un bout du compartiment et hors de portée l'un de l'autre, sans quoi j'aurais sauté dessus en dépit de son revolver, car la vraie signification de son regard m'apparut tout à coup. Il n'était plus le même, ce regard. Il était presque plein de commisération maintenant. Mais ses lèvres s'entr'ouvrirent, découvrant les deux rangées de dents serrées, et dans les yeux implacables et cruels qui me fixaient obstinément, je lus ma sentence de mort. « Oh, ça, vous figurez-vous que je me suis donné tout ce mal ?» pour gagner une nuit d'avance, alors que j'aurais pu avoir un jour et une nuit si je n'avais pas fait passer mon temps à vous attendre. » Il jeta un coup d'œil sur son arme et, doucement, se rapprocha de moi. « Vous figurez-vous que je vais vous laisser vivre pour que vous méritiez vous-même à la corde au cou ? Si vous me tuez, vous vous condamnerez une seconde fois. » Lui-même, lui dis-je, très calme, mais songeant avec amertume aux occasions dont un autre, plus hardi que moi, aurait pu profiter avant qu'il ne fût trop tard. Dès le début, j'aurais dû m'élancer sur lui. Mais n'était-ce pas autant que la peur, l'étrange fascination qu'il exerçait sur moi, qui m'avait retenu à ce moment-là? Maintenant, le moindre geste de résistance n'aurait fait que précipiter ma fin. En discutant avec lui, au contraire, j'avais chance, sinon d'échapper à mon sort, du moins de retarder le sinistre événement. « On ne peut me pendre deux fois, » me répondit Chandler. « Et puis cette fois-ci, ce ne sera pas un assassinat, je vous le promets. Ce sera un suicide, voilà. Ça sonne mieux, pas vrai ?» Suicide de Rowland Chandler, l'assassin présumé dans l'Express d'Écosse. Ce Rowland Chandler que j'avais devant moi était notablement au-dessous du niveau de ses pareils. Ce qu'il imaginait clairement, c'était, selon toute probabilité, le cadavre dans le train, la preuve évidente que fournirait son revolver, ses vêtements, son linge, lors de l'enquête qui établirait la mort de l'assassin et le rairait de la mémoire du public. Mais il y avait une chose qu'il avait oubliée, et je le lui fis remarquer. « Et laquelle ?» me demanda-t-il d'un ton railleur. « Bien, je dois descendre à Bittorque, John. On m'y attend pour le petit déjeuner chez les personnes que je vais voir. » On compte sur moi pour faire une excursion demain. Et voyant que je n'arrive pas, on télégraphiera pour avoir de mes nouvelles. Vous ne serez plus l'unique objet des recherches. Il y aura deux hommes au lieu d'un qu'il faudra retrouver vivant ou mort, et vous n'aurez, je le répète, gagné qu'un peu d'avance. Alors je vais la prendre dès maintenant, s'écria-t-il en proférant un juron et en s'avançant vers moi, tandis que les lumignons tremblotants du compartiment lançaient par intervalles sur cette scène tragique de petites lueurs brèves. Plus près encore, m'écriai-je, saisi d'une inspiration qui lui paraître tenir de la démence. Il faut que vous me frappiez presque à bout portant, si vous voulez que cela puisse passer pour un suicide. Un nouveau juron me répondit. Un honnête canaille qu'il était, il avait bien réfléchi à cela dès le début, mais il n'avait pas prévu que j'y penserais moi-même. Je devinais à l'expression rageuse de sa physionomie combien il s'en voulait de m'avoir ainsi divulgué ses intentions. Il avait fait pour m'intimider, je crois, mais aussi pour satisfaire sa soif de meurtre. Et cette faute grave devait lui coûter cher, ainsi qu'il le méritait. S'il avait su résister à ce raffinement de cruauté, il aurait pu me braquer le canon de son revolver contre la tempe et me tuer dans un mouvement où n'aurait pas eu le temps de me mettre sur mes gardes. Maintenant, au contraire, il lui fallait user de feintes et de ruses avec moi, et j'avais mis deux mains pour le tenir à distance. Soudain, l'une de celles-ci se referma étroitement sur le canon de l'arme du misérable. Oh, Dieu seul pourrait dire comment cela se produisit et lequel de nous deux fut le plus surpris. La seule chose dont je me souvienne, c'est l'impression que me laissa l'acier lisse, difficile à tenir, froid comme un glaçon pour le premier moment, mais chaud comme une braise l'instant d'après. Je compris alors qu'il avait tiré par deux fois, et je me jetai à corps perdu dans la lutte tandis que l'express poursuivait sa course effrénée. Il était plus fort que moi. Il m'entraîna avec lui. Je glissai en bas de ma banquette. Il posa ses deux genoux sur ma poitrine et me frappa en pleine figure de sa main libre, tout cela sans prononcer une syllabe. Pendant tout ce temps, je réussis à maintenir suffisamment loin de moi le revolver fumant. C'était ma seule et unique préoccupation. Je ne pensais absolument pas à autre chose. Je ne cessais pas même d'y penser quand l'air frais de la nuit pénétra tour à coup dans le compartiment. Je m'étais pas aperçu qu'une des portières s'était ouverte, tandis que nous poursuivions encore notre course à travers les ténèbres. Je ne l'entendis pas se refermer, tandis que se dressait au-dessus de nous un géant coiffé d'un chapeau melon et vêtu d'un par-dessus de drap bourru. C'est lui, c'est Chandler, c'est l'homme qu'on recherche pour le crime! S'écria avec une admirable présence d'esprit le gredin en me désignant. Mes deux mains vigoureuses le rejetèrent pour leur banquette. Nos deux visages étaient l'un à côté de l'autre. Oh, l'hésitation du détective ne fut pas longue. Oh, ne lui faites pas de mal, m'écriai-je, en même temps que je me réfugiais dans un coin avec le revolver entre les mains. Lui faire du mal, s'exclama le gros homme, il n'y a pas de danger. Je voudrais pas toucher un cheveu de sa tête. Et sa voix avait l'accent attendri de celle d'un entomologiste qui vient de capturer un nouveau papillon dans son filet. Je n'avais nulle envie d'assister au procès, mais l'assignation qui me fut envoyée me força de comparaître en qualité de témoin, et une fois ma déposition faite, je ne pus me décider à quitter la salle d'audience avant le prononcé du jugement. Et j'y revins chaque jour tant que durèrent les débats. La question incidente de notre ressemblance parut de peu d'importance devant le tribunal. J'avais du reste rasé ma petite moustache et Chandler avait laissé pousser sa barbe. Mais le portrait que moi-même j'avais pris pour le mien était beaucoup mieux connu que l'original des rares personnes qui purent assister au débat. L'affaire se termina un soir d'automne, alors que la nuit était déjà tombée. Et il faut rendre à Rowland Chandler cette justice qu'il écouta, comme un homme de courage, la sentence qu'il avait méritée comme un vil gredin. Il protesta une dernière fois de son innocence, toisa les juges avec une incroyable arrogance, puis pivota sur ses talons et disparut pour toujours aux yeux du monde. C'était une belle soirée de septembre et les rues étaient aussi brillamment éclairées que la salle du tribunal où nous étions entassés pendant tant de jours. Mon intention avait été de rentrer chez moi à pied, mais en entendant la remarque formulée par une femme qui passait au bras de son mari et qui se jeta vivement de côté en m'apercevant, je levai aussitôt mon parapluie en l'air pour faire signe à un cab. « Ah, par exemple, s'était-elle écriée, mais ils l'ont acquitté quand même !»